Ça roule radio avec Marc Bouchard et Guillaume Laurin. Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux mordus de l'automobile, vous écoutez Ça roule radio, je suis Guillaume Laurin, avec à mes côtés Marc Bouchard, le spécialiste incontestable de l'automobile. Ça va Marc?
Ouais, mon Dieu, c'est un peu pompeux comme titre, mais je le prends.
Mais je commence par t'envoyer des fleurs, après je vais mordre, attention. Aujourd'hui, tu nous reviens du Salon de l'Auto de Montréal, bien sûr, du 17 au 26 janvier 2020. C'est la 77e édition déjà. Et il y a beaucoup de nouveautés, il y a des grandes tendances, des tendances lourdes, comme on dit, notamment le domaine électrique, l'automobile électrique, on y reviendra. Et puis, il y a des modèles très attendus, marquants, dont on va parler. On aura aussi l'occasion d'écouter deux interviews au cours de cette émission. Et sans plus tarder, mon cher Marc, eh bien, j'ai envie de te demander quels sont les modèles qui t'ont tapé dans l'œil pour ce nouveau Salon de Montréal?
C'est sûr qu'il faut savoir que le Salon de Montréal est quand même un salon qui reprend un peu ce qui a été présenté à Los Angeles. Cette année, c'est particulier parce qu'il n'y a pas de Salon de Détroit en même temps. Normalement, les deux se chevauchent. Là, il n'y a pas de Salon de Détroit. Ça nous a permis d'avoir des primeurs, mais en tout cas, une primeur au moins nord-américaine qui a été faite chez Hyundai et qui est un prototype qui est le Concept 45. C'est la première fois que ce véhicule-là était présenté en Amérique du Nord. C'est un véhicule qui, évidemment, reprend de nouvelles lignes, une nouvelle silhouette, mais est surtout à motorisation électrique. L'idée derrière ce véhicule-là, ce n'est pas nécessairement le véhicule lui-même, parce qu'on s'entend que quand on le regarde, il est beau, il a des lignes particulières, mais il ne sera jamais produit dans cette déclinaison-là, c'est certain.
Hélas!
Par contre... Oui, hélas, t'as raison. Mais par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que la plateforme qui sous-tend à ce véhicule-là, qui s'appelle le skateboard, là, un peu ce que tout le monde appelle parce que les batteries sont dans le plancher, ben, devrait servir de base à toute une nouvelle gamme de véhicules électriques coréens, que ce soit chez Kia ou chez Hyundai. Donc, je pense que l'élément, c'est pas nécessairement le design comme la technologie sous-jacente au Concept 45. Et ça, déjà, c'est un beau lancement pour Hyundai à Montréal.
Alors là, il s'agit plutôt du châssis qui sera peut-être dans nos rues bientôt. Pour simplifier, là, ce skateboard, c'est simplement... ça nous gagne beaucoup de place en termes d'habitabilité dans un véhicule comme celui-là?
Oui, bien évidemment, parce que le problème, en fait, de tous les véhicules électriques, et on y reviendra quand on va parler un peu plus tard du Subaru Crosstrek hybride, le problème, c'est l'espace occupé par les batteries. Parce que les batteries sont lourdes, les batteries sont imposantes. Alors évidemment, il faut trouver un espace qui ne compromettra pas le confort ou l'espace de chargement. Donc, en les insérant dans le plancher du véhicule, bien là, à ce moment-là, ça crée une structure qui est beaucoup plus stable, qui a un centre de gravité beaucoup plus bas. Et non seulement ça, mais ça permet de mettre par-dessus littéralement n'importe quelle forme. Parce que une fois que la base est là, la base de batterie, on insère un moteur électrique qui est beaucoup plus petit, on peut littéralement dessiner n'importe quelle carrosserie pour aller par-dessus et on est capable de l'adapter en conséquence. Donc, si on a une bonne plateforme électrique, eh bien, ça permet justement là, l'élaboration de différents modèles. Et le plus bel exemple de ça, c'est probablement Volkswagen. Tu as vu les 23 modèles de ID quelque chose qu'on nous a présenté au fil des années.
C'est sûr, c'est sûr. Alors, là, chez Volkswagen, en passant, il y a une e-Golf aussi là, dans le domaine électrique.
Ah ben, la e-Golf existe encore, mais elle est complètement renouvelée. La Golf 8 qui est lancée en Europe n'est pas encore lancée chez nous. Elle ne sera pas avant au moins un an. Donc, évidemment, il faut attendre chez nous. C'est plus difficile de se procurer des Golf électriques. On est encore sur l'ancienne génération, donc on verra ce que ça va donner, là.
OK, OK. Quoi d'autre dans le domaine électrique, justement, mon cher Marc?
Ben, en fait, il faut préciser que le Salon de Montréal a été beaucoup, beaucoup... je dirais, tourner vers l'électrique. Il y a d'ailleurs tout un volet, toute une salle qui est réservée au développement électrique. Bien sûr, il y a là tous les modèles auxquels on peut s'attendre, les modèles que l'on connaît bien, là, les Toyota Prius hybrides ou branchables, bon, tous les véhicules électriques, les Bolt et autrement. Mais on a aussi poussé plus loin en allant chercher des véhicules comme la BMW i8, par exemple.
Alors la
qui
i8, c'est, ouais, c'est un grand modèle. Maintenant, BMW développe une gamme. On avait la petite i3. Maintenant, la i8, c'est une sorte d'anti-Tesla, finalement.
Oui, ben exactement. Sauf qu'elle n'est pas 100% électrique, là. Elle est hybride. Et on a décidé d'abandonner sa production. On a annoncé ça un peu plus tôt cette semaine. Mais elle est quand même là et elle est quand même magnifique. Et il y a même une voiture comme la Karma Revero, par exemple, qui est une voiture électrique aussi. Au design, ben, on connaît le design que Fisker avait mis de l'avant pour la Karma. Alors, elle est là, accompagnée de tout ce que vous vous imaginez en termes d'électricité, c'est-à-dire des vélos, des bornes de recharge. Donc, il y a vraiment tout un salon électrique au Salon de l'Auto de Montréal.
Tout hybride, hybride rechargeable, hybride branchable. Il y a une vingtaine de modèles, je crois, qui sont mis en avant là sur ce stand.
Effectivement, et c'est vraiment, en fait, c'est presque un étage complet. C'est parce que, bon, il faut savoir, je sais que toi, tu n'es jamais venu au Salon de Montréal, mais on va quand même préciser pour ceux qui connaissent l'endroit. C'est au 7e étage, ce qu'on appelait auparavant le 7e ciel, en fait. Donc, il y a tout cet élément-là électrique qui occupe tout le 7e étage, sauf une toute petite partie où on a disposé 8 ou une dizaine de voitures antiques. Là. Et là, on a fait des blagues. Là. Il y en a, de différentes générations, c'est-à-dire de la Model T qui date des années 20 jusqu'à des automobiles plus récentes des années 50 ou 60. Donc, on a un certain nombre de véhicules là, qui sont vraiment magnifiques, qui viennent compléter l'exposition, mais qui n'ont rien d'électrique dans ce cas-là, je vous l'assure.
Ah non, j'ai vu un petit peu la liste. On a jusqu'à la Plymouth Emicuda des années 70, mon Chevrolet Monte Carlo de 1987, un des derniers muscle cars, et puis ouais, des voitures assez sympathiques, mais pas assez à mon goût. 8 voitures, c'est vraiment peu pour ce salon de Montréal. J'espère qu'ils vont développer cette section-là. Dans le genre aussi anecdotique, il y a une autre section qui m'a interpellé, moi, qui s'appelle, c'est une initiative nouvelle pour 2020, Expose ton char, et il s'agit finalement de véhicules modifiés, tunés un petit peu, comme on dit, c'est-à-dire que le public va voter pour 10 finalistes qui vont exposer leur voiture au salon. C'est des jeunes Québécois, donc, qui vont avoir la chance d'exposer leur char.
Exactement, je t'avoue. Moi, je vais être très franc avec toi que je n'ai pas parcouru cette section-là. Je m'y connais moins en tuning et dans les délais, j'avais pas vraiment le temps. Mais je sais qu'à quelques reprises au fil des années, on a créé une section tuning, justement, qui a toujours été extrêmement populaire. Ouais. Et là, l'idée d'encourager les jeunes à promouvoir leur propre voiture, moi, je trouve que c'est brillant. C'est une excellente idée.
Absolument une excellente idée. Le salon fourmille d'idées. Est-ce que tu as une idée, justement, en passant, Marc, de combien d'expositions, combien de visiteurs vont fouler les tapis du Salon de Montréal cette année?
En général, il y a à peu près 200 000 visiteurs par année qui se pressent au Salon de l'Auto de Montréal, où il y a 600 véhicules ou presque d'exposés. Bon, évidemment, il y a des modifications cette année, c'est-à-dire qu'il y a des compagnies comme Audi et Volvo qui ont décidé de bouder tous les salons. Hein. C'est pas exclusif à Montréal, on va le dire. Et donc, ils boudent tous les salons. Mercedes-Benz n'est pas là comme compagnie, mais les concessionnaires de la région montréalaise ont décidé d'y être quand même et de présenter leur modèle sur place. Alors, c'est au moins les amateurs peuvent donc voir tout ça. Et il y a toutes sortes d'autres nouveautés. Là, on a passé rapidement à des voitures un peu plus spéciales, mais il y a quand même des voitures de production qui vont plaire aux enthousiastes. Et je sais que tu en es un. Entre autres, c'est la fameuse Corvette de Chevrolet à moteur central, la C8, qui fait sa première apparition officielle en sol canadien.
Et c'est toujours un événement qu'une nouvelle Corvette depuis les années 50. C'est la voiture de sport américaine par définition. Et la C8, elle est à couper le souffle encore une fois.
Totalement. Et on en a deux modèles sur place, une blanche et une orangée qui est absolument spectaculaire. Au moment du dévoilement hier, vraiment, là, les gens se sont amassés autour. C'était vraiment particulier. Et chez GM, on a fait un effort. On a aussi amené... Ah, là, vous avez la compagnie de mes chiens en arrière.
Enthousiasmé par la Corvette, moi, Jean-Marc.
Sans aucun doute. Alors, effectivement, on avait aussi amené un petit véhicule qui s'appelle le Trailblazer, qui est un petit utilitaire sport compact, qui utilise, si on veut, la même le même physique, la même esthétique que le Blazer lui-même dans la partie avant, mais qui est vraiment beaucoup plus petit et qui a une motorisation de 1.2-1.3 litres turbo. Donc, des tout petits moteurs qui devraient être très économiques. Donc, chez Chevrolet, on a quand même frappé un grand coup. Là, on est arrivé avec des véhicules quand même assez frappants, justement, au niveau du look.
Ça, c'est sympathique parce que effectivement, le Trailblazer, c'est un nom ancien chez Chevrolet, mais peut-être que la marque peinait un petit peu à développer des nouveaux modèles de plus petite dimension avec des plus petits moteurs, et c'est maintenant chose faite. On ne peut que saluer l'initiative.
Effectivement, c'est une bonne chose. Toujours du côté de General Motors, on nous a aussi présenté la Encore GX, qui est en fait encore une fois un petit utilité à sport, mais qu'on a un peu grossi, plus d'espace, plus d'équipement, vraiment mieux fait. Donc, encore une fois, une belle réussite de ce côté-là. On va rapidement, si tu veux, faire le tour des nouveautés qu'on a présentées, parce qu'il y en a quelques-unes qui valent le détour. Chez Mazda, entre autres, on nous a présenté le CX-30, qui est le VUS compact qui arrive fort bientôt, je dirais, chez les concessionnaires. En fait, il va être disponible à compter de la semaine prochaine.
Alors, juste pour préciser, Marc, le CX-30, c'est quoi la différence avec le CX-3?
C'est plus gros que le CX-3, plus petit que le CX-5. En fait, on aurait pu l'appeler le CX-4.
Ouais.
Il existe déjà au Japon.
D'accord. Ça aurait été plus logique.
Oui, mais on y va aussi. On est parti sur le 30. Hein. Je vous rappelle que la version électrique d'un véhicule Mazda va s'appeler la MX-30.
C'est ça.
Donc, il y a certainement une signification, mais j'avoue que là, je n'ai pas posé la question. On a aussi présenté chez Subaru, on en a brièvement glissé un mot tout à l'heure, le Subaru Crosstrek hybride branchable. Je vous avoue une certaine déception. Le véhicule est beau, le Crosstrek va bien. C'est un véhicule avec lequel je me suis toujours bien entendu, je dirais, là, parce qu'il a une certaine capacité en route avec son rouage intégral, mais il n'offre que 27 km d'autonomie.
Alors qu'il était pourtant attendu au tournant depuis assez longtemps, je crois, ce véhicule électrique rechargeable de chez Subaru.
Effectivement, on l'attendait depuis un certain temps et on savait qu'il y avait un partenariat avec Toyota, donc on espérait vraiment un peu plus de capacité à 27 km et un véhicule qui est tout près de 43 000 $ quand même. Ouais, c'est ça. Alors, ça devient un peu problématique. Bien sûr, on nous dit chez Subaru que et ils ont pas tort, c'est un véhicule qui est complètement équipé, qui arrive, bon, c'est vraiment le haut de gamme dans la version des Crosstrek, mais n'empêche que c'est assez, je dirais, un peu décevant en termes de performance. Je dois dire cependant que de ce côté-là, en plus, ils font affaire à une forte concurrence parce que, et on va parler plus tard là, de mon essai du Ford Escape ordinaire, mais Ford en a profité pour présenter l'Escape branchable, qui lui arrive avec 45 à 50 km d'autonomie, et Toyota est arrivé avec le RAV4 branchable, le fameux RAV4 Prime, qui lui offre entre 55 et 60 km d'autonomie.
Ah oui, pour un véhicule qui est quand même encore un peu plus gros qu'un Crosstrek, hein, n'est-ce pas?
Oui, un peu plus gros, mais qui sont théoriquement presque dans la même catégorie au niveau des utilitaires. Et on parle d'un prix qui est à peu près similaire. On estime que le Escape hybride branchable aura un prix de base de 43 000 $. Donc, on est littéralement nez à nez avec le Crosstrek.
Ok, donc c'est une première pour le Canada, mais peut-être un peu de déception du côté de Subaru. Il y a une voiture dont on a déjà un peu parlé ensemble. Je sais que tu vas nous introduire tout à l'heure une interview ou même de quelqu'un de chez Ford. C'est bien sûr la fameuse Mustang VUS, le fameux Mustang 4 portes qu'on ne sait pas trop comment présenter. Il est à la fois très beau et puis le choix de ce nom Mustang fait grincer quelques dents, mais pourtant, il s'agit d'un véhicule plutôt excitant, je trouve.
Oui, effectivement, c'est un véhicule qui est magnifique, qui a une silhouette absolument spectaculaire, qui a des capacités vraiment particulières. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de faire une entrevue qu'on vous fera entendre un peu plus tard, et avec M. Fabrice Jund, qui est responsable de la commercialisation, entre autres, de ce Ford Mustang Mach-E, qui nous explique pourquoi il s'appelle Mustang et où on s'en va avec ça. Je pense que je vais lui laisser le soin de l'expliquer pour éviter toute confusion, mais effectivement, c'est un véhicule, encore une fois, qui est une primeur canadienne à Montréal, et vraiment, ça vaut la peine d'être vu. Et rapidement, là, si on fait encore le tour des primeurs, il y en a quand même quelques-unes. Genesis nous a amené un concept qui s'appelle la Mint, un concept qu'on avait déjà vu, qui est super beau, qui est magnifique, mais ils en ont aussi profité, et ça, j'ai trouvé ça intéressant, pour se servir de Montréal pour dévoiler leur plan d'électrification, notamment en garantissant la venue d'un véhicule 100% électrique avant la fin de 2021. Pour Genesis, c'est un gros pas en avant parce qu'on sait que ce sont des véhicules de grand luxe.
Ouais, ouais.
Moi, j'ai l'impression que on va se diriger vers ça. On vient tout juste de lancer le GV80, qui est l'utilitaire sport de la marque. Et là, ben, c'est la voiture électrique qui sera au cœur du développement chez Genesis.
C'est vraiment la tendance du moment, cette électrique, qu'elle soit rechargeable, branchable ou toute électrique. J'ai l'impression que toutes les marques s'y mettent finalement.
Oui, ben effectivement, je pense qu'on est vraiment dans ce sens-là. Quoique, plusieurs marques n'ont pas présenté de véhicules électriques. Si on pense, par exemple, à Lexus qui nous a présenté la LC convertible, qui est probablement la plus belle voiture sur le marché actuellement, ben elle va être en production, mais elle n'a rien d'électrique. Mais elle est superbe. Juste voir les lignes de la LC convertible, c'est super beau. Chez Nissan, on nous a plutôt présenté un nouveau Titan remanié avec un moteur 400 chevaux, une capacité de remorquage de 10 800 livres, donc on était vraiment dans l'autre extrémité, et la fameuse Nissan Sentra, que j'ai eu l'occasion de conduire en décembre. On en a parlé un peu plus tôt à l'émission, en décembre dernier, avant les fêtes, mais c'est une voiture, en fait, qui va être extrêmement populaire chez nous. Et petite anecdote, mon cher, la Nissan Sentra, on a fait une première médiatique la veille du Salon de l'Auto à laquelle j'ai été invité. Et participait à ça un groupe qui s'appelle Team White. Ce sont deux danseurs qui ont gagné une émission qui s'appelle Révolution, qu'on a présentée à la première saison. Ah, je suis un fan de Team White. Alors, en rigolant, je suis allé les voir et j'avais un ami qui était là. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Question Auto et il a fait une vidéo, en fait, on a fait une vidéo ensemble où on parlait de la Sentra et tout, et où je parlais de Team White et on m'a même montré quelques pas de danse. Alors, quand la vidéo sortira, je vous enverrai le lien, mon cher.
Je veux voir la vidéo, Marc.
Je n'ai aucun talent, mais elle sera intégrée dans la vidéo du lancement de la fameuse Kia de Nissan Sentra, lancement auquel j'ai assisté. Heureusement, les gens de Team White sont pas mal meilleurs que moi, là. Mais j'ai fait juste 3-4 pas, ça m'a amplement suffi.
Tu deviens une star dans tous les domaines, mon cher Marc.
Non, mais c'est là qu'on constate que quand l'orgueil est passé, moi, j'étais pas là.
Mais on est surtout là pour s'amuser, que ce soit derrière un volant ou dans ses lancements, ça doit être quelque chose. Hein.
rapidement, parce que le temps file, là, Volkswagen nous a présenté l'Atlas Cross Sport, qui est la version un peu plus dynamique de son gros Atlas 7 passagers, et la nouvelle Passat, qui a aussi été remaniée. Il y a BMW qui nous a fait tous les lancements imaginable. Bon, imagine la M8 Grand Coupé, le X5M, le M235 Grand Coupé, la M2 CS, le X3, le Mini Cooper SE et le Mini Cooper Sidewalk Edition. Tout ça dans le même kiosque BMW. Et il y a bien sûr toutes les voitures exotiques qui font l'objet aussi d'un lancement. La McLaren GT, la 600 LT sont sur place. Il y a la Lamborghini Evo décapotable qui est là, la Lotus Evora, Porsche qui nous a présenté une nouvelle 718, le Taycan bien sûr, le coupé de Cayenne, Rolls-Royce qui est là avec la Cullinan, Maserati qui est là avec la Levante. Bref, on était vraiment dans les voitures de grand, grand luxe. Et il y en a deux dont on n'a pas parlé encore. C'est qu'il y a un volet qui s'appelle la boîte noire. Et la boîte noire, ben, c'est une surprise pour les vrais enthousiastes, puisque ce sont des voitures exceptionnelles. Et dans ce cas-ci, c'est la McLaren Senna et la, j'ai toujours de la misère, la Pagani Huayra Roadster qui sont sur place. La Huayra Roadster, à titre d'information, elle est peut-être dans ton budget, mais pas dans le mien. Elle vaut 4,5 millions de dollars.
Ah, peut-être le modèle réduit, alors, mon cher Marc. Je pense que ce genre de véhicules sont généralement vendus avant même la commercialisation. Donc, je suis à l'abri du danger.
Ouais, non, mais peut-être qu'on va en trouver une d'occasion dans c'est quelques vrai? Années. Bref, tout ça pour dire que c'est vraiment une visite assez exceptionnelle. Et il y a une voiture dont on n'a pas parlé parce que, on a passé rapidement. C'est la Kia Seltos. Encore une fois, un lancement qui a eu lieu 2-3 jours avant le dévoilement officiel au Salon de Montréal, mais c'était aussi une première et c'est vraiment une très, très bonne idée, là. D'ailleurs, si tu permets, mon cher, on va écouter les deux entrevues, celle de Kia et celle de Ford.
Alors, commençons tout de suite par l'entrevue sur la Kia Seltos.
Alors, Réjean, un habitué du podcast parce que c'était avec nous l'année passée pour la présentation.
Oui.
Aujourd'hui, c'est quand même un élément important parce que vous arrivez chez Kia avec un nouveau modèle dans un segment qui est extrêmement populaire, duquel vous n'étiez pas présent. Pourquoi vous avez tant tardé?
Premièrement, au point de vue VUS sous-compact, vraiment qu'on va pas mener, qui est en croissance beaucoup au Canada, au nord de l'Amérique, en fait. On voulait faire certain quand on a sorti de notre modèle, on a regardé le marché, où le marché s'en allait. Les modèles que, on va dire, comme le Kona, OK, Hyundai.
Ouais.
Et vous savez qui est Hyundai, on est très proches ensemble, mais on regardait aussi, on va regarder Honda, on va regarder Qashqai, ces choses-là. Alors, on regardait où est-ce que le marché s'en allait, premièrement. On aurait peut-être pu avoir un modèle un peu plus vite, mais on voulait faire certain quand on arrivait au nord de l'Amérique, on voulait avoir un modèle qui avait tous les atouts pour le marché, pour la clientèle. Le design, comme tu sais, chez Kia, qui est très important.
Effectivement.
Mr. Peter Schreier veut avoir un modèle qui paraît bien, pas juste avoir un modèle qui va, on va dire, qui va être beau pour un an ou deux. On veut que ça dure très longtemps. Alors, on a pris notre temps. Oui, ça a pris un peu de temps, mais je pense que le modèle qu'on a en ce moment, pour moi, premièrement, au point de vue design, au point de vue technologie, fiabilité, au point de vue connectivité, toutes ces choses-là, je pense qu'on a frappé tous les points en ce moment pour arriver avec le modèle qu'on voulait. Peut-être un peu en retard, mais je pense que le marché est en très bonne croissance en ce moment.
Si on compare le Seltos, qui en passant est magnifique, là, j'aime beaucoup le design, il a l'air plus d'un utilitaire en fait,
oui,
que le Kona.
En plein ça.
Bon, sauf que la technologie, ce que vous amenez, en fait, c'est la technologie qu'on retrouve chez Hyundai. Moteur 1.6, moteur 2 litres.
Oui, le même groupe motopropulseur, c'est la même chose.
Système UVO. La grande différence, c'est le rouage intégral. Vous offrez le rouage intégral sur à peu près toutes les versions, sauf la version de base.
Juste la version de base d'entrée, qui est la LX, avec le moteur 2 litres et la boîte de vitesse IVT, mais on a aussi le LX avec traction intégrale.
Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour vous démarquer?
Alors,
parce que, comme je le dis, technologiquement, c'est à peu près la même chose que le Kona, là.
Oui. Alors, c'est mec que tu as la chance d'aller voir le véhicule dans quelques minutes, de t'asseoir à l'avant, à l'arrière et le rangement arrière. Vous allez voir que c'est plus long, c'est un peu plus haut, plus de place pour les grands gens à la deuxième rangée. Mais au point de vue cargo...
C'est pas un problème pour moi, il faut que ce soit plus large, pas plus haut.
Puis au point de vue cargo, c'est 200 litres de plus que la Kona.
OK.
Alors, qu'est-ce qu'on voulait? C'est un véhicule encore sous-compact, mais qui donnait plus d'espace, plus de rangement, pas seulement pour le couple aventurier, mais pour le couple avec sa petite famille. Et c'est un couple aventurier, le beau-père et la belle-mère, un gars comme moi veut être bien assis à l'arrière.
On parle beaucoup de couple aventurier. Quand on a présenté le véhicule à Los Angeles, on l'a présenté dans un contexte de hors-route.
Exactement.
On s'entend que c'est une excellente image marketing, mais le véhicule n'a pas nécessairement ces capacités-là.
Non, pas, on va dire, à plein hors-route, mais comme vous allez voir très bientôt, il est beaucoup plus haut que le Kona. Alors, la hauteur du véhicule est plus haute. Alors, un peu plus long aussi. La traction intégrale fonctionne extrêmement bien. Alors, pour quelqu'un qui veut aller à son chalet, qui veut aller faire un peu de camping, je ne dis pas 150 km dans le bois, dans les parcs des Laurentides, mais c'est un véhicule encore hors route qui est assez capable au point de vue chalet, au point de vue aller à la pêche, ces choses-là, à cause de la hauteur.
Le nouveau Seltos arrive au printemps. On peut parler du mois de mars ou à peu près, j'imagine?
À peu près, je dirais au mois de mars, on va dire. On ne sait pas la date exacte, mais comme Elias LHA a dit, notre vice-président, ce printemps, alors on va dire mars.
OK. Évidemment, vous n'avez pas parlé de prix encore.
Non.
Est-ce qu'on va se classer? Est-ce qu'on vise vraiment là, à contrer directement le Kona ou si on accepte que le all-wheel drive soit plus dispendieux et qu'on mise là-dessus?
Si, quand vous allez avoir les prix très, très bientôt, peut-être même ce soir avant la fin de la soirée, définitivement au Salon de l'Auto à Montréal.
Mon podcast sort vendredi. Alors, les prix?
Alors, je peux pas vous dire ça en ce moment, mais vous pouvez aller peut-être demander à quelqu'un d'autre. Alors, encore chez Kia, comme on a fait, ça fait des années. Le prix va être compétitif, mais où est-ce qu'on va aller chercher ces valeurs, prix et équipement? Alors, on va avoir le LX traction intégrale, le EX, qui va être probablement le plus gros vendeur, le EX Premium, et le SX qui vient avec moteur turbo et ces choses-là. Mais avec l'équipement et le prix, on va être meilleure valeur que notre compétition.
Même déclinaison, en fait, que le Sportage.
Exactement.
OK. Dernière question. Vous arrivez avec le Seltos, c'est le premier des nouveaux produits de Kia. On sait cependant que la compagnie est supposée avoir une grosse année en 2020. Alors, à quoi on peut s'attendre chez Kia cette année?
Alors, comme vous le savez, premièrement, comme qui est déjà annoncé, on sait que le Sorento arrive à la fin de sa vie. Alors, très bientôt, vous allez voir un nouveau Sorento. On parle aussi que l'Optima est à la fin de sa vie. Alors, on va probablement avoir un nouveau modèle d'ici peu. Et aussi, on peut peut-être... Une chose qui va être très bien ciblée chez Kia dans les prochaines années, c'est les véhicules électriques hybrides branchables. C'est quelque chose, c'est une technologie qu'on est très intéressé. On sait qu'au Canada, le gouvernement nous demande comme manufacturier d'avoir un certain montant de véhicules à zéro émission électrique. Alors, Kia veut prendre en charge cette technologie-là et de plus en plus de modèles.
Parfait. Bien, merci, mon cher.
Bienvenue et à la prochaine.
Voilà, sans transition, l'interview de Fabrice Jean pour parler du fabuleux nouveau Mustang électrique, le Mach-E, avec Marc.
Alors, je vais vous demander juste seulement de nommer votre nom et votre titre. Si
je m'appelle Fabrice Jeande et je suis le Product Marketing Manager pour la Mustang Mach-E aux États-Unis.
Écoutez, la Mach-E, c'est la voiture qui a probablement fait couler le plus d'encre au cours des dernières semaines. D'une part pour ses capacités, mais ça, on y reviendra. Le premier vrai défi de cette voiture-là, c'est de l'avoir appelée Mustang. Et ça a fait, je dirais, hurler les enthousiastes et les puristes. Ça l'a plu à certains autres. Du point de vue marketing, comment on justifie l'appellation du nom Mustang pour un véhicule qui est un VUS, finalement?
En fait, on ramène ça à l'ADN Mustang. Qu'est-ce que c'est qu'une ADN Mustang? C'est la performance, c'est le plaisir de conduite et c'est la liberté que ça donne. Et ça, c'est ce qu'on a fait il y a 55 ans quand on a lancé la Mustang originelle. Donc, on a repris cet ADN et on l'a mis sur une voiture entièrement nouvelle, une voiture électrique avec capacités d'autonomie qui sont quand même très importantes. On a 4 roues motrices, on va jusqu'à 475 km d'autonomie. On a la dernière technologie Ford qui est disponible sur cette voiture et surtout on a un design de voiture utilitaire qui est donc très spacieuse pour 5 passagers avec le cargo. On a des performances extraordinaires, moins de 4 secondes 0 à 100 pour la GT Performance Edition. C'est des performances vraiment qui étaient réservées aux super voitures il y a encore quelques années. Et quand même une belle autonomie qui permet de partir en vacances, de partir en week-end, et de recharger sur la route avec des recharges en courant continu de 75 km pour 10 minutes de charge, donc 150 kW de recharge. Donc là, on a tous les éléments d'une voiture polyvalente, magnifique, avec beaucoup d'autonomie. Et donc, elle est une digne représentante du nom Mustang. Et d'ailleurs, les gens ont une réaction première en disant « Oh, Mustang, qu'est-ce que vous faites? Vous changez ma voiture. » Mais quand ils la voient, quand ils voient la voiture en réalité, ils comprennent que c'est une Mustang.
Sauf que le nom Mustang a tendance à s'adresser, je dirais, plus à des gens comme moi d'un certain âge ou qui ont vu pousser la Mustang au fil des ans qu'à des jeunes. Je pense à mon fils de 20 ans pour qui le nom Mustang n'a pas nécessairement la même connotation. Est-ce que du point de vue de la commercialisation d'un véhicule comme celui-là, c'est un atout ou un handicap?
Oh, c'est un atout. C'est un atout. C'est une marque très forte, très puissante au sein de la marque Ford. Quand vous dites Mustang, même si vous n'êtes pas de la génération qui a vu la première Mustang, ça vous parle quand même. Parce que cette idée de performance, de liberté, de route ouverte pour l'aventure est toujours là dans l'esprit Mustang. Donc, définitivement un avantage.
Cette Mach-E-là, bon, elle est magnifique, le design est superbe, la technologie, vous l'avez dit, 480 km d'autonomie ou à peu près. Sauf que c'est quand même un premier pas pour Ford dans le monde de l'électrification totale, ou presque. Hein. Il y a eu quelques tentatives précédentes avec les énergies, mais c'était pas exactement 100%. On se dirige vers où chez Ford avec ce genre-là? Parce que, vous nous le dites depuis tout à l'heure, la Mustang Mach-E est un véhicule de performance électrique, mais on a voulu jouer la carte de la performance. On s'en va vers où avec ça chez Ford?
Déjà, on a quand même plus de 800 000 voitures hybrides avec moteur électrique qui ont été vendues, d'ailleurs avec beaucoup de qualité. On n'a aucun problème de qualité avec ces voitures-là. On a quand même pas mal d'expérience avec les batteries, les voitures hybrides. Donc c'est vrai que c'est notre première plateforme dédiée à une voiture électrique. Et elle arrive à un moment où le marché est mûr, en fait, pour cette augmentation des volumes et cette démocratisation, en fait, des voitures électriques, avec un marché qui est avec plus d'offres et surtout l'autonomie qui permet d'aller loin maintenant avec la voiture et aussi maintenant d'avoir assez de place dans la voiture, parce que les gens jusqu'à maintenant quand même avaient pas mal de compromis à faire en termes d'apparence de la voiture, d'autonomie ou de capacité en général. Là, il n'y a pas vraiment de compromis, parce qu'on a tous les éléments pour une voiture qui serait une voiture qui va avoir du succès.
On a une Mustang Mach-E derrière nous. Est-ce que l'utilisation du nom Mustang pour un VUS pourrait laisser présager la création d'une marque Mustang, d'une espèce, un peu comme on l'a fait là, dans d'autres domaines?
Pour l'instant, ça, c'est notre dernière édition, addition à la famille Mustang, donc une chose après l'autre. Moi je ne peux parler que de ça pour l'instant. On ne peut pas vraiment de commentaires pour le futur, mais c'est une marque très forte pour nous, pour Ford.
Dernière question. Évidemment, c'est une question de prix. On sait qu'actuellement, les véhicules électriques se vendent bien au Canada, au Québec notamment. Mm-hmm. Il y a des incitatifs qui sont relativement généreux. Bon, on parle quand même de certains montants. Mm-hmm. Est-ce que vous croyez qu'on va être capable de percer le marché avec des voitures qui sont, relativement dispendieuses sans nécessairement tous ces incitatifs-là? Parce qu'évidemment, sur les autres marchés, il n'y a pas les mêmes incitatifs.
C'est une très bonne question. Je dirais que maintenant, ça, c'est une voiture qui est à un prix, elle démarre autour de 50 000 $ canadiens. Elle va jusqu'à plus de 80 000 $. Donc, il y a une gamme pour chacun. Avec les aides financières, donc ça réduit encore plus, ça donne encore plus de valeur à la voiture. Mais je dirais que maintenant, en termes de performance et d'autonomie et de polyvalence de la voiture, même à ce prix-là, ça va être des voitures qui sont, même sans les aides, c'est des voitures qui ont énormément de valeur, dans le sens qu'il y a très peu de maintenance à faire sur une voiture comme ça. C'est très facile à vivre. Je vais vous dire, la première chose que quelqu'un vous dira, quand vous dites comment vous aimez votre voiture électrique, qu'est-ce que vous aimez le plus à propos de cette voiture, la première chose qu'ils vous disent, et tous, ils vous le disent tous, vous pouvez même demander la question, j'adore ne pas avoir à aller à la station service. Ça, c'est leur numéro un, ça. C'est être libéré des stations service. Donc, c'est un autre style de vie. Et je pense que quand les gens vont commencer à voir de plus en plus de voitures sur la route, ils vont se dire, mais attends, si c'est possible pour mon voisin, ce sera aussi possible pour moi. Et je crois que les gens vont être de plus en plus attirés par ces voitures-là, qui sont aussi très faciles à conduire, très faciles à vivre. C'est silencieux, c'est agréable à conduire. En fait, vous n'avez pas besoin de la conduire vite. Hein. Vous en profitez même à petite vitesse. C'est une voiture silencieuse. C'est quelque chose, en fait, c'est un goût acquis. Au départ, on se dit, mais comment ça va être? Mais une fois que vous avez essayé, en fait, vous n'avez pas vraiment envie de revenir dans une autre voiture.
Mustang Mach-E, on sait que la première édition, la First Edition, s'est écoulée, il n'y en a plus.
Oui.
Les autres sont disponibles. Elle arrive quand sur le marché canadien?
Au quatrième trimestre 2020, donc octobre, autour d'octobre.
Et actuellement, on peut précommander les autres modèles, mais GT, je pense, va arriver un peu plus tard.
C'est ça, oui. Elle va commencer en production premier trimestre 2021. Mais donc, vous pouvez réserver une voiture aujourd'hui, ensuite transférer ça en une commande, et la voiture sera disponible à la fin de l'année.
Est-ce qu'on va limiter le nombre d'unités par année, ou si on y va tant que la demande est là?
La première année, on est à 50 000 voitures globalement. On est limité, en fait, par les batteries, par le nombre de batteries. Mais je vous rassure, pour le Québec, il y aura assez de véhicules pour faire face à la demande. Et donc la voiture sera disponible dans les concessions certifiées au Québec.
Dernière question. On nous a dit, ou j'ai lu quelque part, qu'il y aurait 70 % de la production de ces véhicules-là qui s'en irait en Europe et seulement 30 % en Amérique du Nord.
Je crois pas que ce soit la proportion exacte, mais on a des les deux marchés en fait sont en développement. Je n'ai pas cette information exacte sur le pourcentage, okay. Mais je pense que c'est plutôt plus près de 50-50, pas 70-30. Enfin, j'ai pas exactement l'information, mais c'est pas disproportionné comme ça.
Pas de problème. Je vous remercie infiniment.
Je vous en prie, monsieur.
Merci.
Avec plaisir.
On est de retour dans Ça roule radio avec Marc Bouchard, je suis Guillaume Laurent et on reste chez Ford pour parler maintenant d'un des véhicules les plus attendus parce que c'est une des grandes stars du segment des VUS ici au Canada, c'est le tout nouveau Ford Escape 2020.
Oui, mon cher, un véhicule qui a été complètement remanié. Pas tout à fait complètement, parce qu'il y a quand même une partie de la motorisation qui est la même, il faut bien le dire, mais un véhicule qui n'a plus du tout la même allure que l'ancienne. D'ailleurs, c'est un véhicule qui devrait te sembler assez familier parce que la base est celle d'un véhicule européen.
Écoute, il a une silhouette qui fait penser tantôt, j'allais dire en profil, à peut-être un Mazda CX-5 ou même, il me fait penser de loin à un petit Porsche Macan.
Oui, effectivement, on a joué un peu cette carte-là avec la partie avant. Et en Europe, ben, c'est un mélange en fait de la Focus, que l'on ne verra plus malheureusement en Amérique du Nord, et de la... C'est la Kuga,
La Kuga, qui est en fait un petit peu la cousine du Escape en Europe.
Exactement. Mais c'est la Kuga, en fait, qui a été la première à utiliser cette plateforme-là, qui sert dorénavant de base au Ford Escape.
C'est bien ça. Je crois même qu'il y aura une cousine chez Lincoln également.
Oui, effectivement. Sauf que là où ça devient intéressant, en fait, c'est que cette architecture-là, elle est construite dorénavant à partir d'acier haute densité. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire évidemment que ça offre une meilleure résistance en cas de collision. Déjà, ça, c'est pas si vilain. Mais surtout, c'est que ça permet d'amincir certaines pièces. Donc, au lieu d'avoir une grosse structure d'acier qui fait le tour de l'habitacle, on a des pièces beaucoup plus minces, ce qui fait que le véhicule a perdu un peu en dimension quand on le regarde à l'extérieur. Il est notamment plus bas.
Ouais.
Mais à l'intérieur, il y a plus de dégagement pour les passagers.
Ça, c'est une bonne nouvelle, surtout pour les passagers arrière, si vous aviez l'habitude de l'ancienne mouture de l'Escape. Côté capacité de chargement, on est à peu près dans le même chiffre, je crois.
Ouais, en fait, on a perdu, je pense, un centimètre, là, parce qu'on a...
C'est anecdotique.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les banquettes de deuxième rangée dont tu parles sont dorénavant coulissantes.
Ah, ça, c'est bon, ça.
Donc, on est capable, au choix, soit d'obtenir plus d'espace pour les passagers, soit d'obtenir plus d'espace pour les bagages à l'arrière. Donc, ça aussi, c'est une très, très bonne nouvelle. Dans la série des bonnes nouvelles, on a parlé du style. Sur le coup, j'avoue que j'ai eu quelques poils hérissés quand j'ai vu la partie avant, parce que le problème que j'ai chez Ford, en fait, c'est qu'on est rendu avec 8 calandres différentes et qu'on cherche un peu l'identification.
C'est vrai qu'on a comme ce problème chez Ford récurrent d'identité et c'est un petit peu dommage. Moi, j'aimais bien le vieux modèle, tu sais, qui a été lancé, je crois, en 2001, qui était un peu carré, qui était très américain, qui finalement était bien distinctif. Là, on lorgne du côté des constructeurs, effectivement, européens, allemands, japonais, et peut-être qu'on s'y perd un petit peu, mais il faut bien reconnaître que le design est quand même joli.
Oui, effectivement. En fait, là, je l'avoue, la première journée, j'avais un petit peu d'hésitation, mais ça s'est rapidement résorbé. Je trouve qu'effectivement, on a fait un très, très beau travail et à ce niveau-là, ben, on s'y habitue assez rapidement. Donc, ça donne un look beaucoup plus profilé. Ça donne une allure, le capot qui s'allonge, les phares étirés, un peu à la mode du Porsche Macan, tu l'as bien souligné. Donc, de ce côté-là, c'est assez réussi. À l'intérieur, on a aussi considérablement amélioré l'ergonomie du véhicule. Beaucoup plus simple, beaucoup plus dégagé. Bon, et évidemment...
Et là, cher Marc, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les utilisateurs parce que l'ancien tableau de bord, excuse-moi de te le dire, mais il me donnait un peu mal au crâne.
Oui, non, effectivement, tu as tout à fait raison. Et on a trouvé une façon de t'enlever ta migraine encore plus simple que ça. Ça s'appelle l'écran calme.
Ah, ça, c'est sympa. C'est quoi? Ça consiste en quoi, l'écran calme, alors?
Alors, c'est que devant le conducteur, tu sais, il y a toujours, bon, il y a les deux cadrans, là, le contour et l'indicateur de vitesse, et au centre, il y a toujours une tonne d'informations, que ce soit la vitesse moyenne, la consommation moyenne, la distance journalière. Bon, il y a toujours une tonne d'informations, et quand nos yeux s'abaissent inévitablement, ben, on voit circuler cette information-là, et ça vient comme nous distraire un peu. L'écran calme, c'est un choix que l'on peut faire au niveau de l'affichage, où tout ce qu'on retrouve en fait, c'est effectivement, ce sont les deux cadrans et les mots « écran calme ».
Ah oui, j'ai vu des choses un peu comme ça chez Mercedes, avec des tableaux de bord configurables avec différentes couleurs, différentes formes, et je trouve ça assez sympa.
Oui, effectivement, mais dans ce cas-là, c'est surtout que l'on enlève une partie de l'information qui n'est pas absolument nécessaire en permanence et au quotidien. Tu sais, ma moyenne de consommation, même si je ne la vois pas bouger d'un dixième de litre à toutes les fois que j'accélère, ça ne change pas grand-chose à ma façon de conduire.
Vraiment, tu n'as pas l'œil rivé dessus en permanence? Je suis surpris, Marc.
On fait ça quand on a des hybrides. Hein. Ça, c'est maladif. Mais quand on a un véhicule ordinaire, on a tendance à moins le faire. Alors, tout ça pour dire que, donc, on a ça, on a un système Sync, système multimédia, qui est définitivement mieux réussi qu'auparavant, beaucoup plus agréable et beaucoup plus ergonomique, et surtout qu'il y a un système de commande vocale qui comprend quelque chose, alors qu'auparavant, c'était pas toujours aussi simple.
T'as bien raison de le souligner, là aussi, sans vouloir être méchant, c'était peut-être aussi un peu à se tirer les cheveux par les oreilles, et là, l'écran est mieux placé aussi, tout en haut de la console. Moi, j'ai vu quelques images, c'est très propre et c'est beaucoup plus classique, on va dire.
Beaucoup plus classique. Et moi, j'avais la version Titanium, qui est la version la plus équipée. On a même droit à l'affichage tête haute. Mm-hmm. Donc, il y a une espèce de petit volet de plastique qui se soulève devant le conducteur et on a là toute l'information nécessaire à la conduite. Donc, honnêtement, c'est très, très bien réussi. Du point de vue dynamique, ben, c'est un véhicule qui n'a pas beaucoup de changements, on le dit, toujours disponible avec un petit moteur qui est plus standard, si l'on veut, là, qui est la version de base, qui est le petit moteur 3 cylindres 1.5 litres de 181 chevaux. Oui, c'est bien 3 cylindres. C'est un des rares modèles nord-américains qui dispose d'une mécanique comme celle-là.
Qui est relativement économique, mais pas trop non plus, hein?
Non, effectivement, tu as bien raison. Ce n'est pas l'économie qui est la principale qualité du Ford Escape, peu importe sa déclinaison. Moi, j'avais le moteur, quand même, le moteur 2 litres, 4 cylindres, de 250 chevaux et de 280 livres-pieds de couple. C'est un moteur turbo, jumelé à la boîte automatique 8 rapports, c'est toujours le cas. Et rouage intégral, j'ai fait quand même 10,3 litres au 100 de moyenne.
Ça, c'est pas la meilleure nouvelle que tu me donnes. J'avais presque envie de signer le chèque et là, je commence à hésiter. Mais il y a des versions hybrides, Marc.
Oui, et ça, c'est la grande nouvelle. On en a brièvement parlé au Salon de l'Auto de Montréal. On a ramené la version hybride parce qu'on avait un peu abandonné ce côté-là chez Ford avec l'Escape. Mais là, on nous ramène deux versions hybrides, pas une, mais deux. Une version hybride traditionnelle, qui est la première, bon, qui fonctionne un peu comme n'importe quelle version hybride, là, c'est-à-dire qu'il y a une assistance électrique au démarrage et dans les accélérations, mais dans l'ensemble, vous ne roulez pas vraiment en mode électrique.
Ouais.
Mais il y aura, à compter, la date exacte, je ne l'ai pas, là, mais c'est un peu plus tard cette année, où il y aura une version hybride branchable. Et là, ben, c'est intéressant parce que c'est un véhicule que l'on branche pendant quelques heures, 3 heures ou à peu près, et qui va nous donner jusqu'à 45 à 50 km d'autonomie en mode 100% électrique. Et il faut quand même le dire, c'est un véhicule qui arrive bien équipé malgré tout et dont le prix de base est estimé à peu près à 42-43 000 $. On n'a pas le prix définitif encore. Il va falloir attendre plus près du lancement pour le faire. Mais dans l'ensemble, s'il est effectivement 43 000 $, ça va devenir vraiment, vraiment attirant pour quelqu'un qui a envie d'avoir un véhicule beaucoup plus économique.
Oui, il a presque tout pour plaire quand même, ce nouveau Escape. Je crois que je vais aller le voir en concession.
Et je te suggère de l'essayer parce que les gens, sur le coup, les gens étaient un peu réticents. Et quand on le conduit, il est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus agréable qu'on pourrait le croire. Et on n'a pas fait de compromis vraiment sur la dynamique de conduite. Donc, le confort est là. il est peut-être un petit peu bruyant, mais dans l'ensemble, c'est vraiment un véhicule avec lequel j'ai été extrêmement satisfait.
Ouais, l'ancien modèle était déjà un peu bruyant, mais on s'y fait, et puis il est quand même assez joli, finalement. On aura peut-être l'occasion de reparler d'autres versions de ce Ford Escape. C'est, je crois, la VUS le plus vendu ici au Canada, hein, maintenant.
Ben, c'est un de ceux qui est plus vendu. Le RAV4, je pense, était d'avant. Mais c'est parce qu'il faut faire attention. Il y a toutes les notions là, de vente de flotte et de tout ça. Ouais. Donc, mais c'est sûr qu'il est parmi, il est au palmarès des plus vendus, effectivement. Et c'est l'un des plus populaires encore. Et il sera certainement encore plus populaire maintenant avec cette nouvelle allure et avec ses multiples déclinaisons, c'est certain.
Voilà, dans le cadre du Salon de l'Auto de Montréal jusqu'au 26 janvier, si vous êtes de passage, c'est la 77e édition, époustouflante avec plein de nouveautés. Est-ce que, pour terminer, mon cher Marc, tu as encore quelque chose à nous faire partager?
Ben, en fait, j'aimerais qu'on parle un peu, parce que normalement, dans le cadre du Salon de Détroit, il y a toujours un concours qui se termine, c'est celui de la voiture nord-américaine de l'année. On n'a plus de salon, mais on a quand même dévoilé les résultats cette semaine, et je trouve ça intéressant d'en parler, parce qu'il y a des véhicules qui sont là-dedans, ma foi, qui le méritent très bien. Alors, il y a trois catégories. La catégorie de la voiture nord-américaine de l'année, il y avait trois finalistes. On va préciser que ce concours-là est fait et il y a 60 journalistes d'Amérique du Nord, donc des Canadiens, des Québécois, mais aussi d'un peu partout au pays, et des Américains qui se partagent, qui font des essais tout au long de l'automne pour arriver avec la sélection. Et trois finalistes, Toyota Supra, Hyundai Sonata et la Corvette de Chevrolet. Et c'est la Chevrolet Corvette qui l'a emportée à titre de voiture nord-américaine de l'année.
Et c'est normal, c'est bien mérité. C'est la voiture américaine par excellence.
Ah, totalement. Là-dessus, personne ne va en douter. Au niveau des camions, il y avait aussi trois finalistes. Le Ram, mais dans sa version heavy duty, donc le gros Ram là, 2500, capable de presque littéralement remorquer le stade olympique. Là. le Ford Ranger, qui est arrivé, mais qui date déjà de quelques années dans d'autres pays, et le Jeep Gladiator. Et c'est ce dernier, le Jeep Gladiator, qui l'a emporté. Je suis assez content parce que même si c'est pas nécessairement un véhicule que l'on utilise à tous les jours, c'est un véhicule que moi, j'adore absolument. Donc, je suis assez content du résultat.
Oh oui, je partage ton enthousiasme. Moi, j'adore les véhicules qui servent à rien et celui-là, je trouve que c'est... Il se pose là. Non, je rigole. Le Gladiator, c'est un modèle que j'aimerais voir plus souvent et que j'aurais envie de conduire comme je crois que tu as eu la chance de le conduire, c'est-à-dire partout dans tous les chemins et y compris en montagne. Dans des situations un petit peu scabreuses.
Oui, ben effectivement, nous, on est allés dans la boue au lancement et on s'est amusé allègrement. Je te dirais que j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir.
C'est comme
ça. Enfin, la troisième catégorie, c'est celle des utilitaires sport de l'année. Et il y avait le Lincoln Aviator et il y avait les deux cousins germains de très près, le Hyundai Palisade et le Kia Telluride.
Ouais.
Et c'est le Kia qui l'a emporté. C'est une bonne nouvelle pour Kia, bien entendu. Mais c'est particulier parce qu'imagine, le Kia Telluride a remporté le titre de voiture d'utilitaire nord-américain de l'année, a remporté le titre de meilleur utilitaire chez Motor Trend, a remporté le titre du meilleur utilitaire chez Car & Driver et a été nommé hier au Salon de l'Auto de Montréal comme étant le meilleur utilitaire grand format au Canada par l'Association des journalistes automobiles du Canada.
Incroyable. Ah oui, donc là, c'est presque... la critique est presque unanime là, pour ce gros VUS. Et, bon, on ne le voit pas encore beaucoup. Hein.
Non, ben écoute, et c'est dommage parce que c'est un véhicule qui est vraiment beau, mais bien entendu, c'est un véhicule qui demande quand même... Écoute, il faut que tu aies besoin d'un véhicule 7 passagers et que tu sois prêt à payer près de 50 000 $ pour l'avoir. C'est déjà en soi quelque chose d'assez particulier, mais je pense que c'est bien mérité dans le cas du Telluride.
On aura peut-être l'occasion aussi d'en parler un peu plus une prochaine fois dans une autre émission. Marc, merci beaucoup de nous avoir fait partager tous tes coups de cœur, toutes les voitures les plus attendues. Je retiens quant à moi le nouveau Corvette C8 et peut-être si tu me donnes un petit peu j'allais dire si tu me donnes les résultats du loto, je vais en prendre cette fameuse Pagani Huayra Roadster dans la boîte noire qui va avec et je la mettrai dans mon salon, au milieu du salon.
Est-ce que tu savais que les boulons de ce véhicule-là valent 90 euros pièce?
Alors, je prendrais 5 boulons.
Bon, alors, c'est pas exactement dans mon budget non plus, là, je te le signale.
Merci, Marc. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Ça roule radio.
Avec plaisir. On rappelle aux gens qu'on peut nous écouter sur les ondes de sportradio.ca. On peut nous écouter sur les ondes de Radio Média Plus. Bien sûr, sur saroule-radio.com, notre page Facebook. Nous écrire si vous avez des commentaires à info@saroule-radio.com. Et bien sûr, télécharger cette balado-diffusion sur toutes les plateformes, là, Apple, Google et tout ce qui va. Donc, on vous invite, bien sûr, à nous faire signe si vous avez des questions. Ça nous fera plaisir.